Direction l'Afrique. Le journal de la Défense vous emmène ce mois-ci en plein désert, au cœur de l'opération Barkhane. Dans une première partie, nous irons à N'Djamena, où sont planifiées toutes les actions. Nous verrons l'importance de la logistique et des transmissions pour accomplir les nombreuses missions confiées aux forces de Barkhane. Parmi elles, le détachement air de la base de Kosseï avec son escadron Rafale. Nous nous envolerons ensuite au Niger, découvrir les drones indispensables aux forces pour gérer une zone d'opération aussi étendue. Dans un second épisode, nous suivrons sur le terrain, au Mali, l'opération Piana, symbole de la coopération avec les forces armées maliennes. Dans la chaleur et la poussière, nous partagerons avec les hommes leur quotidien sur le terrain.
Depuis combien de temps il n'y a pas eu d'attaque de bandits dans le coin?
3000 hommes répartis sur 5 États et conduits par un poste de commandement unique. L'opération Barkhane, lancée le 1er août 2014, marque un nouveau départ pour les forces françaises dans la région du Sahel. L'opération Serval, menée au Mali de janvier 2013 à juillet 2014, a porté un véritable coup dur à la mouvance terroriste. Elle a permis le démantèlement de la base d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, la neutralisation de 600 terroristes et la saisie de 200 tonnes de munitions. Mais la menace est toujours présente et impose aujourd'hui aux forces françaises une nouvelle stratégie pour éradiquer définitivement les groupes armés terroristes. Barkhane est une opération régionale, en coopération avec les pays membres du G5 Sahel. La Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, et avec l'appui d'autres pays partenaires de la région, comme par exemple le Sénégal.
Ce qui est très spécifique à l'opération Barkhane, c'est sa régionalisation. C'est quelque chose de complètement inédit pour nos forces armées. Jusqu'à présent, on avait l'habitude d'adopter le principe suivant: un pays, une crise, un théâtre d'opération. Et pour la première fois depuis plusieurs décennies, eh bien, c'est un même théâtre d'opération sur plusieurs pays. Cette réponse régionale, elle vient des pays eux-mêmes. C'est eux qui ont pris conscience qu'ils avaient à lutter ensemble contre des menaces qu'ils partageaient. La deuxième chose de la régionalisation, c'est qu'on s'aperçoit que les zones transfrontalières sont des zones conflictuelles, parce que c'est là où les terroristes, qui ne respectent pas les frontières, s'en jouent même, bénéficient d'un non-droit de poursuite d'un pays vis-à-vis de l'autre et donc installent des zones grises.
Pour atteindre ces objectifs et éradiquer définitivement la menace terroriste dans la bande sahélo-saharienne, Barkhane effectue plusieurs types de missions. Les opérations coup de poing et le harcèlement constant des groupes armés terroristes. Quant aux missions menées conjointement avec les forces armées du G5 Sahel et les forces des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, elles doivent rétablir les armées nationales dans leur première fonction, assurer la sécurité de leur territoire. La zone d'action de Barkhane représente 9 fois la France, un espace immense à l'échelle de l'Europe. Pour s'approvisionner, les forces s'appuient sur 3 ports: Dakar, Abidjan et Douala, et utilisent 2 aéroports, un à N'Djamena et un à Niamey. Pour faire face aux distances, les convois terrestres et aériens permettent la circulation des hommes, du matériel et le basculement des forces d'une base à une autre selon les besoins. Pour gérer au mieux son immensité, la zone d'action est divisée en 2 fuseaux, un est et un ouest. Des troupes sont présentes à N'Djamena et à Gao. Barkhane est une opération interarmée qui s'appuie sur deux bases aériennes, l'une au Tchad et l'autre au Niger, à Niamey, où se situe aussi un escadron drone. Pour parfaitement contrôler la zone d'action, les forces se déploient sur des bases avancées temporaires au Nord Mali, Nord Niger et au Tchad. Direction N'Djamena pour découvrir le cœur de Barkhane, son poste de commandement. Aujourd'hui, le camp de Kosseï est le point d'appui des forces de Barkhane stationnées dans le fuseau Est. C'est aussi ici que se situe le poste de commandement interarmé de théâtre, le PCIAT, point névralgique de l'opération.
C'est un PC interarmé de théâtre. Interarmé puisqu'il y a aussi bien des aviateurs, des terriens, quelques marins, même si dans notre aire d'opération, il n'y a pas de mer ou de côte à proximité. De théâtre, puisqu'il traite de les opérations de Barkhane sur toute la zone d'action de Barkhane, hein, sur l'ensemble des pays du G5 Sahel. Il est organisé en bureaux spécialisés, chacun apportant son expertise. Nous avons ici le J2, le bureau qui est en charge d'acquérir le renseignement sur nos ennemis potentiels. Le J3, le bureau qui conçoit les opérations. Le J4, qui est le bureau en charge de la logistique. Le J5, c'est le bureau qui conçoit la manœuvre future, la manœuvre à 2, 3, 4 mois. Quel est l'avenir, quelles sont les opérations futures. Le J6, le bureau en charge des transmissions et des moyens d'information. Nous retrouvons la même problématique que pour la logistique avec un espace aussi vaste. Les postes radio VHF ne suffisent pas à avoir la liaison, nous appuyons sur des maillages satellitaires. Nous avons besoin d'avoir la liaison depuis N'Djamena avec les éléments qui sont au nord du Mali. Nous avons des moyens informatiques qui nous permettent de communiquer 24 heures sur 24 via des chats, l'équivalent de ce que nous utilisons, hein, sur nos moyens civils d'Internet, mais la militariser, crypter, sécuriser, où nous pouvons échanger ces informations en permanence, en toute sécurité. Le J7, le bureau en charge de l'exploitation du RETEX et de la liaison de l'assistance militaire avec nos partenaires. Et volontairement, vous les voyez réunis sur ce panneau parce qu'aucun des bureaux, j'allais dire, ne peut faire son action seul sans le travail avec les autres. C'est cette synergie des expertises qui permet d'obtenir l'efficacité opérationnelle.
Barkhane, ce sont donc des milliers de kilomètres que doivent affronter chaque jour les forces. Sur de telles distances, la logistique et le soutien opérationnel sont décisifs, d'autant plus que l'environnement est épuisant pour le matériel comme pour les hommes.
Je suis à la tête de 46 maintenanciers, dont 4 tchadiens. Là, le matériel que l'on soutient revient notamment de Sangaris, dans un état assez compliqué, forcément, avec le climat, le sable, le matériel revient vraiment dans un sale état. Et là, on reprend tout le parc qui est arrivé et on est en train de le remettre à neuf pour qu'il puisse repartir sur une nouvelle mission.
Chaque convoi logistique est une opération à part entière, au sein de laquelle le service des essences des armées est indispensable. Avoir une vision nette de la réalité des missions sur le terrain, suivre les unités au plus près et adapter les dispositifs en fonction des besoins. Le centre opération interarmée doit être réactif 24 heures sur 24. Toutes les informations sont analysées et mises en commun pour conduire au mieux les opérations qui se déroulent à des milliers de kilomètres.
L'idée pour nous, c'est de fournir une image claire de ce qui se passe sur le terrain. On reçoit tous les comptes rendus des différentes unités. Et grâce à ces comptes rendus, on peut donner une situation en temps réel, soit directement au général s'il y a des choix à faire, soit en permanence au chef du CO qui, lui, doit se tenir à jour en permanence.
Mon rôle principal, c'est de conseiller et de coordonner l'utilisation des moyens aériens sur les opérations terrestres. Alors nous répondons essentiellement à un besoin des GTD. C'est-à-dire qu'au sein des GTD, il y a ce qu'on appelle des FAC, des Forward Air Controllers, qui ont besoin d'appui aérien. Les difficultés spécifiques du théâtre de Barkhane sont les élongations. Tout est très long. Les pilotes font des missions qui sont particulièrement denses, et ce qui induit des repos physiologiques pour ne pas les mettre en danger. Donc nous, on essaye d'optimiser un petit peu l'utilisation des moyens aériens pour que tout le monde puisse être servi.
Les documents pour la mission aujourd'hui, on a la carte des pétroles, dans laquelle on retrouve tous les éléments de la mission.
Avec leur mission de reconnaissance et d'appui des troupes au sol, les chasseurs du détachement R ont un rôle clé dans les actions menées par la force Barkhane.
Ces missions de reconnaissance sont importantes car elles permettent la prise de vue de points d'intérêt, que ce soit des caches d'armes, des zones de rassemblement de groupes armés terroristes, des locaux qui ont un intérêt particulier pour la progression de l'ensemble de la mission Barkhane. On est en appui des troupes au sol. Le fait que les gens au sol nous entendent, ça dissuade certainement l'attaque de nos troupes amies qui, eux, progressent vers l'ennemi. Donc ça a vraiment un effet dissuasif par le simple fait qu'on nous entende.
Les bases de N'Djamena et de Niamey regroupent les deux plochasses du dispositif.
Nous remplissons tous les deux la mission d'appui des troupes au sol. Donc aussi bien les Mirage 2000D que les Rafales sont capables de le faire. Ce qui nous différencie, c'est que sur le Rafale, nous pouvons également faire des missions de reconnaissance, ce que le détachement Niamey par ses Mirage 2000D n'est pas capable de faire. En revanche, il y a des drones sur le site de Niamey qui nous permettent d'avoir cette fonction de reconnaissance. Donc le site de Niamey et le site de N'Djamena sont complémentaires dans le cadre de l'opération Barkhane.
Les drones Reaper et Harfang de l'escadron 133 Belfort, présents à Niamey, mènent leur mission dans toute la zone d'action de Barkhane.
C'est un avion comme les autres, qui est piloté par du personnel navigant depuis un cockpit, via des liaisons hertziennes, qu'elles soient à vue ou par satellite. Ces systèmes permettent d'occuper l'espace aérien. Donc on passe d'une mission en moyenne d'un avion de chasse qui est autour de 4 heures à une mission de drone où le drone sera en vol pendant 24 heures, dont une durée utile sur zone d'environ 18 heures. Et grâce à cette capacité de surveillance en temps réel, on va pouvoir réaliser tout le spectre des missions. Donc c'est du renseignement avant action, c'est-à-dire qu'on prépare les opérations en faisant des opérations de surveillance de manière à cartographier les habitudes des adversaires, du travail de ciblage où on va surveiller une cible et son environnement en vue soit d'une frappe aérienne, soit d'une action menée par les commandos. Et ensuite, on mène des actions en appui d'une force, c'est-à-dire qu'une troupe, un groupe de combat, un convoi qui va se déployer, on va reconnaître, éclairer son itinéraire et renseigner en permanence les gens qui sont dans le convoi d'une part, mais également les gens qui sont en conduite dans les centres d'opération d'autre part, pour qu'ils aient la vision au-dessus de la zone pour pouvoir anticiper.
Restez connectés avec nous sur les réseaux sociaux et rendez-vous pour le second épisode de l'opération Barkhane.